Vous écoutez, on lit pour vous.
Le guide de l'auto, le mammouth du livre québécois. Un texte de Catherine Lalonde, paru le 26 février 2024 dans Le Devoir. On s'est rappelé les grandes qualités de Jacques Duval à l'annonce de son décès, le 6 février dernier. A-t-on assez souligné son importance d'auteur et pour tout le marché du livre québécois? Avec le guide de l'auto et son succès exceptionnel qui revient année après année depuis 1967, Jacques Duval a bétonné les assises du marché avant même que le livre d'ici ne devienne une industrie professionnelle, a indiqué Jean Paré, qui voudrait bien, pour son Saint-Jean éditeur, d'un livre au destin semblable. Regard sur un succès exceptionnel et unique au Québec. C'est toujours le plus grand succès de vente chez nous. Il se retrouve toujours en tête des palmarès, dit en souriant Judith Landry, directrice générale à l'édition Secteur Livre chez Québécois, qui, avec ses 18 maisons d'édition différentes, dont L'Homme et Libre Expression, produit son lot de livres à succès. Il y a des années où un bon Astérix sort et où le guide se retrouve alors numéro 2 au palmarès, mais elles sont rares, poursuit la directrice. Au bilan, Gaspard, qui comptabilise les ventes du marché du livre québécois en librairie indépendante, le guide se retrouve depuis 2012 dans le palmarès des 10 meilleures ventes et depuis 2018 dans les 3 premières positions. Le guide de l'auto n'a pas pour point de vente principaux les librairies indépendantes et il se vend tout autant au salon de l'auto qu'au salon du livre. Le guide de l'auto est un succès typiquement d'ici. On a cherché à vendre le concept du côté anglo, indique Mme Landry. Ils ne comprennent pas comment ça se fait que ça marche à ce point-là chez nous et savent que ça ne marcherait pas chez eux. C'est un genre de spécificité québécoise. De la porno avec des chars. Le guide de l'auto parle de l'amour inconsidéré des Québécois pour leurs chars. Ce livre aurait pu marcher aux États-Unis, estime le sociologue de la littérature Michel Lacroix, professeur à l'UQAM. Il partage cet amour de l'automobile, cette idée qu'elle représente la liberté, le mouvement, continue-t-il. Mais ça leur aurait pris un Jacques Duval pour porter le projet, quelqu'un avec cette crédibilité. Un ancien coureur automobile, journaliste spécialisé, amoureux de la langue, érudit, communicateur, perfectionniste, comme le rappelle Mme Landry, c'est rare, conclut pour sa part le sociologue. Si M. Duval a vendu depuis un moment la marque rachetée depuis par Québecor, ses valeurs sont encore le socle du guide, porté à la dernière édition par Antoine Joubert, Gabriel Gélina et Marc Lachapelle, des journalistes envers lesquels Mme Landry ne tarit pas d'éloges. Le guide de l'auto procure du rêve par procuration, estime Marie-Pierre Luneau, directrice du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec et sociologue de la littérature. Les lecteurs rêvent à ces voitures. Pour 37 $, ce n'est vraiment pas cher pour ce que c'est. On peut nourrir ces fantasmes. Jean Paré expose cette sublimation autrement. Dans le succès du guide, il y a quelque chose qui s'apparente à la porno, estime-t-il, au désir renouvelé et renouvelable et renourri. Pour la clientèle, c'est entre le beau livre et l'objet de collection. L'éditrice confirme, au dernier salon de l'auto, outre la dernière édition du guide, c'est celle de 1974 qui s'est le plus vendue, celle d'il y a 50 ans pile. Un réflexe de collection qui permet aux vieilles éditions du guide de continuer à vivre. Des nuits blanches à écrire. Parce que le guide de l'auto doit sortir en septembre pour la rentrée littéraire et parce que les constructeurs automobiles dévoilent leurs modèles les plus excitants tard dans l'année, souvent passé juin, la fabrication est un défi. Ça met une pression débile sur la production qui se réalise sur un stretch de quelques nuits blanches, indique M. Paré. Vrai? Judith Landry sourit encore. Tout à fait. On fait le maximum de travail à l'avance, du prémontage par exemple, mais à la fin, on installe un camp de base avec une vraie chaîne de travail pendant 5 à 8 semaines avec des nuits blanches. Les journalistes, ils sont excellents, c'est incroyable, écrivent sur les derniers modèles. Dès qu'ils ont fini la page, elle passe à la révision et continue son chemin au montage, etc. On a une entente spéciale avec l'imprimeur parce que ça arrive qu'on envoie le livre quelques heures ou une demi-journée en retard parce qu'on est en train de le finir. Ils font attendre les presses. Un autre traitement spécial pour le guide. Une production qui ressemble davantage à celle d'un journal qu'à celle d'un livre, habituellement plus lente, plus posée, non? Ah, c'est vrai. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Chaque année, on se dit à un certain moment qu'on n'y arrivera pas. Et chaque année, on y arrive. C'est intense. L'almanach des hommes d'aujourd'hui. Au Québec, où le grand lecteur est une lectrice, le guide de l'auto a la particularité d'être un livre numéro un, lu par une plus grande masse d'hommes. Peut-on penser à un autre exemple de livre aussi populaire auprès des lecteurs? Les deux sociologues de la littérature, chacun de leur côté, se creusent la tête pour arriver à la même réponse, l'almanach du peuple. Du 18e siècle à 1950, ce livre avait le même genre d'attractivité et la même capacité de créer une communauté autour du lecteur-collectionneur. Dès qu'on a un ami qui a besoin de s'acheter un nouveau char, il vient voir mon chum pour en parler et consulter mes éditions du guide, a confié une co-collectionneuse. Les défis actuels du guide de l'auto, conserver son prix concurrentiel alors que les frais de production de livres explosent. On n'a à peu près pas de marge de profit là-dessus, admet Mme Landry. C'est une affaire de volume. Ça marche parce qu'on en vend beaucoup. Je ne sais pas si la prochaine génération va suivre, se demande Mme Luneau, avec les défis climatiques à venir et la remise en question de la place de la voiture individuelle dans les déplacements. Mme Landry est confiante. On fait une version pour les jeunes avec des voitures plus spéciales et des faits amusants, et ça marche très bien. Le guide a évolué au fil du temps et inclut les voitures électriques et d'autres préoccupations. Je pense que, tant que les gens vont avoir besoin de s'acheter et de se racheter une voiture, le guide va avoir du succès. Jean Paré conclut « Je suis très content qu'il y ait des bombes comme celle-là dans le milieu du livre, et ça n'a pas d'importance si c'est chez un concurrent. Ça prend un guide de l'auto, ça prend des livres de recettes de Geneviève Augleyman, ça structure le marché. » C'était Le guide de l'auto, le mammouth du livre québécois, un texte de Catherine Lalonde paru le 26 février 2024 dans Le Devoir.
La France devient le premier pays à inscrire l'avortement dans sa constitution. Un texte d'Antoine Maignan de l'agence France Presse paru le 4 mars 2024 dans Le Devoir. La France est devenue, lundi le 4 mars 2024, le premier pays à inscrire explicitement dans sa Constitution l'interruption volontaire de grossesse aux grandes dames du Vatican et à rebours de nombre de pays où le droit à l'avortement recule. Nous avons une dette morale envers toutes les femmes qui ont souffert dans leur chair d'avortements illégaux, a déclaré le Premier ministre Gabriel Attal en ouvrant les débats. Députés et sénateurs réunis solennellement en congrès au château de Versailles ont approuvé à une très large majorité, 780 pour, 72 contre, la modification de la Constitution proposée par le gouvernement du président Emmanuel Macron. Celui-ci a salué une fierté française et un message universel. Célébrons ensemble l'entrée d'une nouvelle liberté garantie dans la Constitution, a écrit M. Macron dans un message publié sur X. À 4 jours du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, cette réforme introduit à l'article 34 la phrase « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. » Il s'agit de la première disposition constitutionnelle aussi explicite et large en la matière, pas juste en Europe, mais dans le monde, a souligné Léa Octor du Center for Reproductive Rights, organisation américaine défendant le droit à l'avortement. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a salué ce vote. Nous saluons la décision de la France de garantir les droits des femmes et de leur sauver la vie, a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X, ajoutant que l'avortement sans risque fait partie des soins de santé. Le Vatican a redit lundi son opposition a tout droit à supprimer une vie humaine au moment de ce vote historique. À l'ère des droits humains universels, il ne peut y avoir de droit à supprimer une vie humaine, a affirmé dans un communiqué l'Académie pontificale pour la vie, organe du Vatican chargé des questions bioéthiques, en soutien à l'opposition des évêques de France. La réunion du Congrès français parachève une longue bataille politique lancée par la gauche, portée par les associations féministes et finalement embrassée par le gouvernement après plusieurs initiatives parlementaires. Message d'espoir. Soutenu par plus de 80% de la population française, selon divers sondages, la constitutionnalisation de l'IVG s'est progressivement imposée dans le paysage politique. Même la Tour Eiffel s'est illuminée lundi soir pour célébrer ce vote. Et la droite et l'extrême droite, historiquement opposées ou sceptiques devant la formulation retenue par le gouvernement, ont fini par voter majoritairement pour la réforme, malgré certaines réticences. L'interruption volontaire de grossesse, IVG, a été légalisée en France en 1975, 4 ans après un appel choc où 343 femmes, dont les actrices Jeanne Moreau et Catherine Deneuve, et les écrivaines Simone de Beauvoir, Marguerite Duras et Françoise Sagan avaient révélé s'être fait avorter. Militant inlassable de cette constitutionnalisation, le planning familial a salué par avance le message d'espoir qu'enverra le Congrès aux féministes du monde entier. Car en France et à travers le monde, le droit à l'avortement est encore gravement menacé, a souligné l'Association de défense des droits des femmes, notamment en matière de sexualité et de contraception. Bataille culturelle. Démonstration en a été faite de manière spectaculaire avec l'invalidation, en juin 2022 aux États-Unis, de l'arrêt Roe versus Wade, qui protégeait l'accès à l'avortement au niveau fédéral. Depuis, de nombreux États ont fortement restreint, voire interdit l'avortement sur leur sol, et des milliers d'Américaines sont obligées d'entreprendre des voyages pénibles et coûteux pour avorter. Cette décision outre-Atlantique a eu l'effet d'un électrochoc sur l'opinion et les élus français, conduisant à de premières initiatives la même année, d'abord sous l'impulsion de la gauche radicale. En mars 2023, Emmanuel Macron annonçait sa volonté d'inscrire dans la Constitution la liberté de recourir à l'avortement. Ces derniers jours, peu de voix hostiles se sont fait entendre. La Conférence des évêques de France a relayé lundi l'appel au jeûne et à la prière, lancé par plusieurs associations catholiques. De tous les pays européens, la France est le seul où le nombre des avortements ne baisse pas et a même augmenté ces deux dernières années, a-t-elle affirmé. Les opposants à l'IVG se sont mobilisés par centaines à Versailles lundi après-midi. Des adolescentes ont collé des photos d'échographie devant lesquelles les manifestants ont déposé des roses blanches, symbole de résistance. Les partisans de la réforme s'étaient, eux, donné rendez-vous au Trocadéro, à Paris, où une retransmission du vote sur écran géant a été organisée à l'initiative de la mairie et de la Fondation des femmes. Ça fait chaud au cœur de voir la France devenir le premier pays à sanctuariser ce droit tellement important, à saluer Brigitte Thirault, 72 ans. C'était « La France devient le premier pays à inscrire l'avortement dans sa Constitution », un texte d'Antoine Maignan de l'Agence France-Presse, paru le 4 mars 2024 dans Le Devoir.
C'est le début d'un temps nouveau pour le hockey. Un texte de Chantal Guy, paru le 25 février 2024 dans la presse. Il est très émouvant de se faire raconter la création de la Ligue professionnelle de hockey féminin, LPHF, par la gardienne de but Anne-Renée Desbiens, surnommée la Grande Muraille de Charlevoix. Elle est considérée comme la meilleure goaleuse du monde en ce moment et est auréolée de médailles, dont une d'or aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. J'ai beau m'estimer féministe, je n'ai pas vraiment suivi le hockey féminin dans ma vie, mais j'aurais dû, et j'ai bien l'intention de me rattraper. Ayant grandi dans une famille qui avait le CH tatoué sur le cœur, j'ai la fièvre du hockey quand le Canadien fait les séries, mais j'ai si souvent été déçu par les décisions de cette équipe, en plus d'attendre une Coupe Stanley qui n'arrive pas depuis plus de 30 ans, que ça me donne envie de transposer ma passion de fan de salon sur la LPHF. Surtout après les scandales à Hockey Canada qui ont failli me faire perdre à jamais mon respect pour ce sport. Mais après avoir pris un café avec Anne-Renée Desbiens, je sens un gros retour de flamme. Nous vivons dans un pays de hockey, une province de hockey, une ville de hockey. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour qu'une équipe professionnelle féminine existe chez nous? Je pense que le hockey est un sport très conservateur et masculin. On doit changer les mentalités et accepter ce sport pour ce qu'il est. On ne compare pas le tennis féminin au tennis masculin, alors qu'au hockey, on se fait toujours comparer. « C'est encore une bataille que nous avons à mener », rappelle Anne-Renée Desbiens. Bien sûr, elle a entendu pendant toute sa carrière des commentaires sexistes, des gens surpris que les hockeyeuses soient bonnes sur la glace, mais le succès réel de la LPHF tel qu'il est rapporté avec enthousiasme par mes collègues des sports, est en train de tout changer. Il est impossible de mettre la main sur des billets à l'Auditorium de Verdun ou à la Place Belle. Le public est diversifié et compte autant de petits garçons que de petites filles. Alors que la première saison de la LPHF vient à peine de commencer, on a battu un record d'assistance le 16 février dernier lors de l'affrontement Montréal-Toronto au Scotiabank Arena. Une salle comble de près de 20 000 spectateurs. Si ça continue sur cette lancée, elles vont bien finir par remplir le Centre Bell. Et n'en doutez pas, c'est dans les ambitions des joueuses de l'équipe montréalaise. Un chemin rempli d'obstacles. Quand Anne-Renée Desbiens m'explique les obstacles qui ont toujours miné le parcours des hockeyeuses au pays, je ne peux m'empêcher de penser à Maurice Richard, qui avait une job le jour et jouait au hockey le soir. Une petite fille mordue de hockey qui rêvait de gagner sa vie avec ce sport n'avait jusqu'en 2024 aucun avenir professionnel à part les Jeux olympiques et des championnats mondiaux. Les Jeux olympiques étaient la seule fenêtre, je dirais, où on pouvait observer les femmes jouer au hockey, note Anne-Renée Desbiens, qui a grandi à Charlevoix dans une famille passionnée par la rondelle. Ce n'était assurément pas un choix traditionnel pour une fille. Je me suis fait dire, à de nombreuses reprises, que je devais changer de sport, que je n'avais pas d'avenir dans ce domaine, de passer à autre chose, dit celle qui a bien failli abandonner sa carrière pour se lancer dans la comptabilité. C'est le fun de dire qu'à 29 ans, bientôt 30, c'est comme ça que je gagne ma vie, que c'est mon travail, que finalement, c'était possible. Bien sûr, les joueuses de la LPHF ne font pas les salaires des joueurs de la LNH. Mais elles peuvent enfin se consacrer au hockey à temps plein. Elles n'ont plus à gérer des horaires de glace impossibles en marge d'un boulot pour payer les factures. Elles peuvent enfin construire un public qui a déjà l'air impatient de participer à l'écriture d'un nouveau chapitre de notre sport national. Et vous savez pourquoi c'est en train d'arriver? Parce qu'elles ont fait preuve de solidarité et tenu fermement leur bout du bâton, alors que le sport féminin est en train d'attirer de plus en plus les investisseurs qui y voient maintenant un marché plutôt qu'une charité. On a travaillé fort pour avoir cette ligue, rappelle Anne-Renée Desbiens. Pendant plusieurs années, on a refusé de jouer parce qu'on voulait avoir de bonnes conditions. Il y avait des ligues qui existaient, mais les conditions n'étaient pas idéales. On a dit « on ne joue plus ». On va s'asseoir, établir nos conditions, on va faire un plan d'affaires, on s'est entouré d'avocats, on a mis nos choses en place. Et c'est comme ça qu'on a trouvé notre investisseur. C'était important pour nous d'arrêter d'être satisfaites de ce qu'on nous donnait. Comme femmes, on se fait souvent dire d'être contente de ce qu'on a, qu'on est chanceuse de pouvoir jouer. Nous sommes arrivés à un moment où on a mis notre pied à terre. OK, on n'est pas chanceuse, on l'a mérité, dit Anne-Renée Desbiens. Bref, elles voulaient être enfin prises au sérieux, et pour cela, elles ont dû résister aux tentations d'offres alléchantes, mais pas toujours à la hauteur de leurs exigences. Je ne mentirai pas là-dessus. Pour beaucoup de joueuses, on a perdu de bonnes années de nos carrières, mais on était prêtes à sacrifier ces années pour les prochaines générations. On s'est tenus ensemble. C'est la première fois dans le milieu qu'une ligue commence avec une convention collective. C'était important pour nous de protéger les droits des joueuses et les employés de la ligue, d'avoir des assurances maladie, des congés de maternité, des conditions de travail, des repas fournis à l'aréna. L'investisseur principal, l'homme d'affaires Mark Walter, a d'ailleurs été surpris de se faire demander des repas fournis, ce qui pour lui relevait de l'évidence, mais les hockeyeuses n'avaient jamais eu droit à ça. C'est vraiment la concrétisation d'un rêve pour les hockeyeuses et Anne-Renée Desbiens a bien sûr une pensée pour toutes les pionnières qui l'ont précédée. Manon Réaume, Daniel Goyette, Kim Saint-Pierre. Sans elles, on ne serait pas là où on est aujourd'hui et on sera toujours reconnaissante, souligne-t-elle. C'est maintenant un rêve pour toutes les joueuses de hockey dans le monde. Ce n'est plus seulement l'exclusivité de l'équipe nationale. Ça va rendre le hockey féminin accessible à plus de joueuses et leur permettre de jouer plus longtemps. En grandissant, tu vois les gars gagner la Coupe Stanley. Tu t'imagines à la partie 7 lever cette coupe-là, mais ce n'était pas des occasions qu'on avait au hockey féminin. Maintenant, ça va ouvrir plus de portes, apporter plus de visibilité et plus de chances aux filles d'avoir des souvenirs extraordinaires. Anne-Renée Desbiens m'apprend au détour que les filles ont créé un club de lecture au sein de l'équipe, ce qui me ravit, alors que j'étais déjà conquise. Mais au fait, ça ressemble à quoi, un vestiaire de hockeyeuse? Je suis choyée. J'ai la chance de travailler avec mes meilleurs amis. On passe beaucoup de temps ensemble. On se connaît toutes très bien, tant sur le plan professionnel que personnel, et on a beaucoup de plaisir. C'est une ambiance exceptionnelle, inclusive. Nous sommes fiers de la culture que nous avons construite dans les équipes où on a eu à jouer et dans nos vestiaires. Je pense que nos valeurs sont différentes. On n'a pas grandi avec l'idée que ça nous était donné. Il a fallu travailler fort pour avoir ça, et on veut avoir un impact positif sur les communautés. C'est déjà commencé, et même si l'équipe n'a pas encore de nom et de logo, ce qui ne saurait tarder, j'ai vraiment hâte d'acheter mon premier chandail du club féminin de Montréal. Qui est Anne-Renée Desbiens? Née le 10 avril 1994 à Clermont, Charlevoix-Est, en 2016, elle a été repêchée par la Ligue nationale de hockey féminin américaine. En 2017, elle a reçu le trophée Patty Kazmaier, qui récompense la meilleure joueuse du championnat universitaire de la NCAA. Elle a remporté une médaille d'argent aux Jeux de Pyeongchang en 2018 et une médaille d'or aux Jeux de Pékin en 2022. En 2023, elle fait partie, avec Marie-Philippe Poulin et Laura Stacy, des trois premières joueuses officielles de l'équipe de Montréal au sein de la LPHF. C'était « C'est le début d'un temps nouveau pour le hockey », un texte de Chantal Guy paru le 25 février 2024 dans La Presse.